présentation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, émission de sortir du nucléaire, Drôme Ardèche. Eh bien, nous attaquons notre dernière émission de l'année. Nous reprendrons nos émissions début octobre, le premier lundi du mois d'octobre. Et comme l'an dernier, nous avons décidé de vous préparer un petit cocktail de lecture. Lecture de plage, lecture de montagne, lecture de ce que vous voulez, même au travail pour certains. Tout tournant autour du nucléaire, bien entendu. Et ce sont des choix que nous avons fait, des choix de passage. Et pour cela, nous avons fait venir plusieurs amis, des artistes, étudiants, etc., pour lire ces textes. Et on va commencer par le premier. Alors, c'est un petit livre, un court roman de 90 pages. Ça s'appelle « Un homme jetable ». C'est écrit par Aude Valcaire. Vous retrouverez toutes ces références sur le site de Sortir de Nucléaire, bien entendu. Ce livre est une violente charge contre l'industrie nucléaire, mais pas seulement. Nous allons suivre le parcours de Jules, un jeune de 18 ans qui vient de rater son bac pour la seconde fois, on est à l'époque, et qui est prêt à faire n'importe quel travail pour échapper au domicile familial. Ainsi, lorsque la conseillère du Pôle emploi lui propose une mission d'intérim dans le nucléaire, il saute sur l'occasion sans se poser de questions. Son travail va l'amener à faire le tour de France des centrales nucléaires pour réaliser des travaux de maintenance lors des arrêts de tranche. Mais un homme jetable, c'est pas seulement cette histoire-là. C'est aussi un réquisitoire à charge contre l'industrie du nucléaire dont nous découvrirons les injustices et le cynisme, différences de traitement entre les sous-traitants et les agents EDF, maladies professionnelles non reconnues, etc. Ce beau roman s'avère fort instructif sur les pratiques cyniques et cyniques de l'industrie du nucléaire. Et on attaque la lecture. Dario.
Dans notre salaire, on a une part pour nos frais de logement et de nourriture, mais la plupart des gars préfèrent s'installer au camping municipal plutôt que de prendre une chambre d'hôtel. À Tricastin, les deux premières semaines de l'arrêt de tranche, moi, je séjourne dans une chambre de l'hôtel de la gare de Pierrelatte. Lilliputienne, glauque, javelisée, des draps aussi doux que le dos d'une éponge Pontex, une lueur de parking qui tombe du plafonnier. Un petit paradis, quoi. Chaque soir, je m'endors par terre, déjà habillé pour le lendemain. Bas de survêtement, t-shirt noir col rond. Après avoir passé au moins 30 minutes sous la douche et m'être enfilé deux Carlsberg. Contrairement à d'habitude, pas besoin de litrons d'alcool pour trouver le sommeil. Je suis rincé. Tricastin, c'est le deuxième site nucléaire le plus grand de France. Ça s'étend sur 600 hectares et c'est réparti sur 4 communes. Les premiers jours, quand Fernand me livre le plan du parking à l'aube, je m'y sens comme une crotte de souris. Le ban, ou la salle des machines, sont aussi grands que des continents oubliés, compliqués de 1000 tuyaux, câbles électriques, échelles, ce qui peut parfois leur donner des airs de coulisses du plus grand théâtre du monde. La chaleur et le boucan achèvent de me rendre microscopique. Fernand ne fait pas grand-chose pour me rassurer. Il me colle avec vigueur sur toutes les tâches les plus merdiques. C'est à se demander si je n'ai pas rêvé le vieux Muppet épuisé de notre première rencontre. Je déteste ce type. Cette façon de jamais me calculer, de me regarder faire d'en haut, comme s'il attendait que je m'écrase tout seul sur le goudron, à la manière d'une fiente de mouette, juste pour confirmer son premier instinct. Depuis le début, il s'est dit, je le sais, que j'étais un petit con. Il préfère travailler de nuit, et comme les bleus débutent de jour, on se croise sur le parking au petit matin. C'est là qu'il me donne les ordres. On se croise aussi le soir pour le rapport. Lorsqu'il me confie les tâches du jour, Fernand adore avoir un public. Ce sont toujours les mêmes collègues qui s'agglomèrent autour de lui. Il y a Solal, un type portant la moustache épaisse et des t-shirts illustrés tout ringard, et le petit portugais pas très loquace qu'ils appellent Bijou. Je ne sais pas pourquoi, son vrai nom c'est Federico. Ce mec-là a un visage rond comme la lune et des yeux écartés qui lui donnent l'air d'être le plus gentil gars de la planète. Mais une gentillesse au-delà du connu, une gentillesse de violeur d'enfants, le dernier de la troupe, c'est un gros con. Michel, qu'il s'appelle. Il se prend pour Steve McQueen avec son blouson de simili-cuir, ses chemises de couleur et son jean qui lui remonte jusqu'aux côtes. C'est la pute de Fernand. Dès que le vieux balance un grognement ou une anecdote, il fabrique une blague pourrie et explose de rire. Il rit sans arrêt, même quand il a envie de chialer ou de chier, ce qui n'est jamais très rassurant chez qui que ce soit, jean taille haute ou pas. Chaque matin, donc, je retrouve Fernand et sa troupe de dégénérés qui m'attendent de pied ferme. En général, Fernand me regarde sortir de la Honda en mâchant un truc que j'ai pris au début pour un chewing-gum mais qui s'est révélé être un bouton de chemise. Un bouton classique, petit, rond, nacré. Sa langue le manipule de telle manière qu'on a l'impression que sa mâchoire jongle avec une Winchester avant de m'envoyer du plomb dans l'aile. J'ai toujours connu Fernand avec ce bouton, soit dans la bouche, soit dans la poche. La plupart du temps, il me donne ma mission du jour et le gros con de Michel balance une lourdeur qui fait ricaner la meute. Un truc du genre, te trompe pas de tranche, hein, ou glisse pas dans le trou, petit. À chaque fois, je me dévore l'intérieur de la joue pour ne pas l'envoyer chier et me dirige vers la centrale sans moufter. Je suis agent de servitude, en charge de la logistique nucléaire, dans le langage d'ici, mais en vérité, je suis la boniche de la centrale. Et la boniche est partout, et la boniche sait tout faire. Robinetier, chaudronnier, pontier, mécanicien, la boniche est au service de l'ensemble des travailleurs. La boniche nettoie les tuyaux, éponge l'eau, installe les fournitures avant le chantier, range le bordel à la fin des opérations de maintenance. La boniche délimite les zones à risque, monte le sas, installe les moyens d'accès et de lutte contre l'incendie, ainsi que des trucs de radioprotection. La boniche gère l'installation des laveries industrielles et des ateliers de décontamination. La boniche peut aussi, si elle sait, conduire les engins de manutention qui ressemblent aux personnages de Toy Story. La boniche est oubliée et méprisée, mais elle est l'œil de la centrale. Donc, très vite, à force d'essuyer le cul de tout le monde et de monter des échelles, descendre les escaliers, traverser des coursives, courir dans les couloirs, prendre des monts de charge, la boniche connaît les différents bâtiments comme sa poche. Toute la journée, je me balade dans la centrale avec mon nécessaire de femme de ménage. Le bâtiment combustible, le bâtiment des auxiliaires nucléaires, la salle des machines. Je vais partout sauf où je voudrais être. Le bâtiment réacteur. Depuis le début, Fernand prend bien soin de me tenir éloigné de l'objet de mon désir. Il a compris. Il sait que j'en meurs d'envie, comme tous les bleus. Peut-être un peu plus que tous les bleus. Il sait que je suis aussi là pour ça. Pour avoir le cœur qui bat, pour sentir ma sueur couler entre mes reins. Je donnerai ma vue, mon ouïe, ma queue, pour voir ce putain de cœur sanguillonnant. Pour approcher l'atome, le circuit primaire, l'uranium, le bord de la falaise, l'ivresse des profondeurs, le combustible. Quelle odeur ça a ? De quelle couleur sera ma terreur ? Qui sera le plus fort ? Je ne demande rien à Fernand. J'obéis, j'attends mon heure.
Merci Dario. Alors je rappelle, hein, donc Un homme jetable d'Aube Walker, c'est la collection Les éditions du moteur et ce sera sur le site de Sortir du nucléaire bien sûr. Et comme il voulait sentir l'atome, bien, le deuxième écrit c'est quelqu'un qui malheureusement a senti l'atome. C'est un très beau livre pour enfants. Et comme nous allons commémorer Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 45, donc 6 et 9 août 2015, voici un petit livre donc, pour enfants qui s'appelle Les 1000 oiseaux de Sadako. L'histoire de Sadako Sasaki est vraie, elle n'en est que plus cruelle. Elle n'avait que 2 ans lorsque la bombe atomique fut larguée sur Hiroshima. 10 ans après, elle mourra d'une leucémie. On l'apprend dès le prologue, et l'on voit cette petite fille, si gaie, pleine de rêves, dont celui de courir, vivre avec sa famille. La maladie déclarée, elle est hospitalisée. Son ami, Shizuko, lui offre une grue en origami. Sadako devra faire 1000 grues pour retrouver la santé, d'après la légende. C'est la légende de ces oiseaux qui sont supposés vivre 1000 ans. Sadako commencera à fabriquer des centaines de grues avec tous les papiers qu'elle pourra récupérer. Elle est devenue une héroïne pour les enfants japonais. Sa statue est érigée dans le parc de la paix à Hiroshima. Et c'est Anaïs qui va nous lire.
Chapitre 1, un jour de chance. Sadako était née pour courir. Sa maman aimait dire que Sadako savait courir avant de marcher. Ce matin d'août 1954 au Japon, Sadako est à peine habillée qu'elle sort déjà dans la rue en courant. Le soleil levant fait miroiter des reflets cuivrés dans sa chevelure noire. Aucun nuage ne vient assombrir le ciel bleu. C'est bon signe, se dit Sadako, qui ne cesse de guetter le moindre présage. De retour à la maison, elle trouve sa sœur et ses 2 frères encore endormis sur leur petit matelas. Elle donne quelques coups à Masahiro, son grand frère. « Debout, fainéant, c'est le jour de la paix !» Masahiro grogne, bâille. Comme tous les garçons de 14 ans, il aimerait faire la grasse matinée. Mais son estomac crée déjà famine. Et justement, une bonne odeur de soupe miso vient lui chatouiller les narines. Masahiro se lève, aussitôt suivi de Mitsu et Eiji. Sadako aide Eiji à s'habiller. Il a 6 ans, mais il lui arrive encore de perdre une chaussette ou son maillot de corps. Puis Sadako plie les matelas. Sa sœur, Mitsu, âgée de 9 ans, l'aide à les ranger dans le placard. Sadako surgit tel un tourbillon dans la cuisine. « Maman !» s'écrie-t-elle. « Je suis tellement impatiente d'aller au carnaval. On ne pourrait pas prendre le petit déjeuner plus vite ?» La maman de Sadako est en train de couper avec soin des radis marinés pour les servir avec le riz et la soupe. Elle lui lance un regard sévère. « Tu as 11 ans, ma fille, et à ton âge, tu ne devrais plus appeler « carnaval » ce jour de recueillement, la gronde-t-elle. Tous les ans, le 6 août, nous commémorons le souvenir de ceux qui sont morts quand la bombe atomique a été larguée sur notre ville. » Monsieur Sasaki entre par la porte de derrière. « Exact. Tu dois te montrer respectueuse, Sadako-chan. Ta grand-mère a été tuée en ce jour funeste. »« Mais j'ai du respect pour Oba-chan, » proteste Sadako. « Je prie pour elle tous les matins. Je suis simplement si heureuse aujourd'hui à ce propos. Il est grand temps de faire nos prières, l'interrompt son père. La famille Sasaki se regroupe autour du petit autel. Le portrait d'Oba-chan est là, sur l'étagère, avec son cadre doré. Sadako lève les yeux au plafond et se demande si l'esprit de sa grand-mère flotte quelque part au-dessus de l'autel. « Sadako-chan !» l'interpelle Monsieur Sasaki. La fillette baisse immédiatement la tête. Elle gigote sur place et tortille les doigts de pied pendant que Monsieur Sasaki prie à voix haute. Il demande que l'esprit de leurs ancêtres soit heureux et en paix. Il dit merci pour son salon de coiffure et ses beaux enfants. Il prie pour que la leucémie, appelée « maladie de la bombe », n'affecte pas sa famille. Beaucoup de Japonais meurent encore de cette maladie, même si la bombe a été larguée 9 ans plus tôt. L'atmosphère s'est alors remplie de radiation et les gens ont été comme empoisonnés pour le restant de leur vie. Au petit déjeuner, Sadako engloutit sa soupe et son riz. Masahiro parle de filles qui mangent comme des dragons affamés, mais Sadako n'entend pas ses taquineries. Elle repense à l'année dernière. Elle avait adoré les bains de foule, la musique, les feux d'artifice. D'ailleurs, elle a encore le goût de la barbe à papa à la bouche. Sadako a fini de déjeuner la première et manque de renverser la table en se levant. Elle est grande pour son âge et ses longues jambes sont toujours au travers de son chemin. « Allez, Michu-chan, viens m'aider à laver la vaisselle, comme ça on partira plus vite !» Une fois la cuisine nettoyée et rangée, Sadako noue des rubans rouges au bout de ses tresses et trépigne près de la porte. « Sadako-chan, lui explique gentiment sa maman, nous ne partons pas avant 7h30. Assieds-toi et attends donc tranquillement que nous soyons tous prêts. » Sadako se laisse tomber lourdement sur le tatami. Ses parents ne seront donc jamais pressés. Soudain, une araignée toute velue traverse la pièce. Voilà qui est bon signe. Sadako est à présent certaine que la journée va être fantastique. Elle recueille l'araignée dans la paume de sa main et la relâche dehors avec précaution. « N'importe quoi !» dit Masahiro. « Les araignées n'ont jamais porté bonheur. »« Nous verrons bien, » lui répond gaiement Sadako.
Et nous allons passer là au chapitre 5. Sadako sait qu'elle est malade et commence à espérer.
Dans l'après-midi, Sadako reçoit sa première visite. Shitsuko. Son amie a un petit sourire mystérieux et cache quelque chose dans son dos. « Ferme les yeux !» lui dit-elle. Sadako ne se fait pas prier. Shizuko pose des feuilles de papier et une paire de ciseaux sur le lit. « Maintenant, tu peux les rouvrir. »« Qu'est-ce que c'est ?» Shizuko sourit. Elle est très contente de sa surprise. « J'ai longuement cherché ce qui t'aidera à aller mieux, » lui annonce-t-elle fièrement. « Regarde !» Elle découpe un grand carré dans le papier doré et en quelques pliages réalise un magnifique oiseau. Une grue. « Mais comment puis-je aller mieux avec un origami ?» l'interroge Sadako perplexe. « Tu ne te souviens donc pas de la légende des grues ?» lui demande Shizuko. « Elles sont supposées vivre 1000 ans. Si une personne malade en plie 1000, les dieux exauceront ses vœux et lui rendront la santé. » Elle tend la grue à son amie. « Je t'offre la première. » Les yeux de Sadako se remplissent de larmes. Shizuko est si gentille de lui avoir fait cadeau de ce porte-bonheur, elle qui ne croit pas au présage. Sadako prend la grue dorée dans ses mains et fait un vœu. Elle a une sensation toute drôle au moment où elle touche l'oiseau. « Ce doit être bon signe. »« Merci, Shizuko-chan. Je ne m'en séparerai jamais. » À son tour, la petite malade s'essaie au pliage, mais ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Shizuko lui explique les étapes difficiles. Sadako aligne ses 10 premiers oiseaux sur la table, à côté de la grue dorée. Ils ne sont pas tous parfaits, mais ce n'est pas mal pour un début. « Allez, plus que 990 !» lance Sadako. Elle se sent en sécurité avec la grue porte-bonheur auprès d'elle. Oui, dans quelques semaines, elle en aura fabriqué 1000. Et alors, elle sera assez bien portante pour rentrer à la maison.
Merci Anaïs. Eh bien, je rappelle ce livre, très beau livre pour enfants, un petit peu triste, mais très beau livre pour enfants, collection 1000 en poche pour les 9-12 ans. Et nous passons à Gêne la gêne de Charles-Louis Couture.
Il s'insinue entre les autres gènes et personne ne le voit. Le gène a dit gène, se gêne pas. Caché entre les chromosomes, il fout la zone. Quand il est là, le gène n'y a pas de plaisir. Le gène entre qui est là. Les maïs sans fleurs, la petite graine des consommateurs.
ne sait pas ce qu'on deviendra si Eugène dégénère. Il a semé le trouble dans l'esprit des génies, gros mauvais petit génie de la biologie, qui caresse l'espoir d'atteindre la gloire et peut-être aussi quelques millions de dollars. Un bricole dans la nature, dans leur laboratoire. Eugène, Eugène, indigène, se gêne pas. Il s'insinue entre les autres gènes et personne ne le voit. Eugène, Eugène, indigène, se gêne pas. Caché entre les chromosomes, il fout la zone. Chercheur pervers ou joueur de poker menteur, coup de bluff média devant les caméras. Les industries cupides manipulent sans scrupule, l'argument de la fin justifiant les moyens. Mais qui avance et qui recule quand on trafique dans les idées que les molécules. Comment veux-tu que, comment veux-tu que, quel est le poème anti-OGM puisse empêcher l'expansion des pollens et autres poussières, des gènes aérés, ventilés dans le système. OGM, OGM. Le gène indigène se gêne pas. Il s'insinue entre les autres gènes et personne ne le voit. Le gène indigène se gêne pas. Caché entre les chromosomes, il fout la zone. OGM, OGM. OGM, OGM. OGM, OGM.
Vous êtes toujours sur Atomic Mac, l'émission de sortir du nucléaire Drôme Ardèche. On était en train de photographier les bébés dans la cabine de conduite de l'émission. Eh bien, nous allons reprendre nos lectures. Jeanne, je te donne la parole.
Alors, c'est une lecture qui est tirée de « Ce n'est pas un hasard » de Ryoko Sekiguchi aux éditions POL. Ryoko Sekiguchi est une traductrice qui habite Paris. Ses parents habitent à l'ouest de Tokyo. Elle était à Paris quand la catastrophe de Fukushima a eu lieu. Rivée aux images de son écran de télévision de manière obsessionnelle, Ryoko Sekiguchi a ressenti le besoin d'enregistrer et d'énumérer les faits sous forme de chronique, à partir du 10 mars, la veille du désastre, avec la peur et l'espoir que la centrale nucléaire résiste, son journal dure jusqu'au 30 avril. Ryoko Sekiguchi est projetée dans les événements qui se déroulent là-bas, et se retrouve, comme tous les Japonais, au centre des débats et des discours en France, avec les clichés sur le Japon et les Japonais qui ressurgissent et pèsent comme des pierres. Cette chronique, écrite au moment des événements, réussit dans un style extrêmement dépouillé à capturer l'angoisse et la sidération.
Et c'est Christophe qui va nous lire des passages de ce journal.
Le 15 mars. Être dans l'intensité de l'écriture, cela devrait être un bonheur pour un écrivain. Cela devrait l'être. C'est la première fois que l'intensité de l'écriture n'est pas pour moi un bonheur, mais une douleur que je m'impose. C'est la première fois, et je regrette de devoir faire l'expérience de cette intensité-là. Ce que je suis en train d'écrire, ce n'est pas de la littérature. C'est un rapport. Je dresse un rapport le plus sincère possible. Le 17 mars. Toutes les catastrophes naturelles entraînent des catastrophes humaines. Mais cette fois-ci, tout particulièrement, nous assistons au revirement d'une catastrophe naturelle en catastrophe humaine, celle des centrales nucléaires. Je me demande ce qui est le plus cruel, de mourir d'une catastrophe naturelle ou dans une catastrophe humaine. Mourir dans un tsunami ou sous l'effet des radiations. Je préfère de loin la catastrophe naturelle. D'accord. Toutes les morts sont terribles, quelle qu'en soit la cause. Mais en détruisant tout sur son passage, la catastrophe naturelle n'est pas animée par la haine. La catastrophe humaine tue par bêtise, par ignorance. Elle discrimine les individus, et je ne veux pas de cette mort-là, que l'on aurait pu toujours éviter. Ceux qui ont fui Fukushima font déjà l'objet de discrimination, paraît-il. Dans les départements mitoyens, ils sont reçus comme des pestiférés. J'apprends que dans le centre de rétention administrative de Shinagawa et dans celui d'Ushiku, département d'Ibaragi, les détenus ont été enfermés à clé, une aberration en cas de secousse. Il s'agirait d'une consigne interne. En tous les cas, ce n'est pas la loi. La loi autorise à libérer les détenus pour les évacuer en lieu sûr. Il semble même que certains quartiers de la prison n'aient pas été tenus informés du tremblement de terre. Ils ont subi la secousse, la peur, sans avoir d'explication. Les gardiens, eux, portaient un casque, pas les détenus. Il ne s'agit pas de criminels, juste de sans-papiers. À Ushiku, en particulier, ce sont des rescapés de toute espèce, victimes de persécutions dans leur pays d'origine, réfugiés arrivés alors qu'ils étaient mineurs, pères de famille. Le 25 mars. J'ai commencé à écrire en espérant une fin heureuse. Maintenant que je sais qu'une fin heureuse n'est plus possible, que quelque chose a déjà été atteint, alors même que l'on est encore loin dans cette catastrophe de la fin de cette catastrophe interminable, où pourrais-je arrêter ma chronique ? Quand j'ai commencé à écrire presque compulsivement et sans pouvoir m'arrêter, j'avais sans doute en mémoire le séisme de Kobe qui a marqué tous les esprits. Mais après coup, on avait pu assister à la reconstruction. Si j'avais fait la chronique du séisme de Kobe, même s'il fallait encore beaucoup de temps, j'aurais pu poser la plume au moment de la reconstruction, même s'il fallait encore beaucoup de temps aux sinistrés, aux villes, pour se remettre véritablement. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas envisager de reconstruction, et je me demande bien d'ailleurs quelle reconstruction sera possible aux environs de la centrale. Tout le monde veut parler de cette histoire, comme moi, même ceux qui ne sont pas concernés, même indirectement, par la catastrophe. Ils veulent parler de ce qu'ils ont vu, à la télévision ou en photo. On en parle partout, sur la toile, au Japon, en France. Mais je comprends, on a besoin de parler, d'écrire. Seul impératif, ne pas adopter un ton péremptoire, le discours d'autorité à la troisième personne. Le 26 mars. Ces jours-ci, il m'en coûte de prononcer ou d'écrire les mots « nature », « paysage », « beauté sauvage ». Je pense à Fukushima, où je ne suis jamais allé. Et je regrette cruellement ce paysage, la nature de Fukushima qui a été soutirée à ce mot. Le 4 avril. Dans l'avion, je me sens envahi par une sensation de faim. Quelque chose a pris fin, de manière irréversible. Je pense à mon dernier séjour au Japon, c'était en novembre dernier. Je m'étais rendu dans le nord avec mes parents, dans le département de Nagano, pour admirer le paysage et goûter la cuisine régionale. Je suis allé dans une station thermale à Hakone. Cuisine fraîche, fruits de mer, le feuillage était rouge et or. Une fois encore, je n'étais pas inquiète du ralentissement économique. Je me représentais que tôt ou tard, le Japon serait dépassé par la Chine et que c'était très bien comme ça. Il y aurait des Chinois pour venir visiter notre petit pays. On allait devenir une destination touristique comme d'autres pays sympathiques. C'est ce qui était en train de se passer. Les Taïwanais et les Chinois commençaient à choisir le Japon comme destination de vacances. Les Européens aussi. Un petit pays de rien du tout, mais avec une belle nature et une culture intéressante, où l'on mange bien. C'est fini. Désormais, moi aussi, quand je mangerai du poisson dans un restaurant de sushi, je ne pourrai pas m'empêcher de penser à la provenance. Avant, si l'on s'enquérait de la provenance du poisson, c'était pour rêver. Pour rêver aux régions du nord, du sud, à leur nature et à leurs rivages. Désormais, ce sera par la peur. Comme si l'on ne pouvait plus visualiser l'image qu'embuée d'un épais brouillard. Ou comme si le pot d'encre s'était renversé sur la table, tachant d'un coup toutes les photos qui se trouvaient dessus. Toutes les images, même celles du sud, même celles de Kyoto, sont tachées. Les étrangers qui ne veulent plus se rendre au Japon, même à l'ouest, je les comprends. Ce n'est pas un simple amalgame. Effectivement, tout le Japon, ou plutôt toutes les images, L'intégralité de l'imaginaire du Japon est tachée par cette encre. Quelque chose a pris fin.
Merci Christophe, c'est un très beau texte. Bien, on va embrayer sur ce, encore une fois, très beau texte sur un roman. C'est un roman policier écrit en 1998, mais publié tout dernièrement. Donc on n'avait pas trouvé l'utilité de le publier en France jusqu'à maintenant, de Keigo Higashimo. Et bien, on s'aperçoit dans ce roman que tout ce qui nous était raconté par la presse, où on nous racontait le peuple japonais comme étant soumis, peu intéressé à la lutte antinucléaire, etc., on se rend compte dans ce roman policier que dès 1998, et même sans doute bien avant, il y avait des luttes antinucléaires, des scientifiques, des citoyens qui luttaient contre le nucléaire. Alors l'histoire, elle est assez simple. Un énorme hélicoptère va se faire voler tout bêtement. Il va traverser la Chine et se poser, ou en tout cas se stabiliser juste au-dessus d'une des principales centrales nucléaires japonaises. Et cette centrale, en plus, elle a la particularité, c'est une centrale équivalente de celle que l'on a cessée en France tout dernièrement. Le nom va me revenir, mais c'est pas bien grave. C'est donc une centrale très importante et une menace va être donnée au gouvernement japonais. Et voilà, Jean-Marie va nous lire cette menace.
À toutes les personnes concernées. Nous nous sommes emparés de l'hélicoptère Big B des forces aériennes d'autodéfense. Si nos calculs sont exacts, il est actuellement en vol stationnaire à une altitude de 800 mètres au-dessus de la centrale nucléaire de type surgénérateur Shinio. Nous le contrôlons totalement. Personne d'autre que nous ne peut le faire bouger. Nous n'avons d'ailleurs pas l'intention de le déplacer pour l'instant. Au fur et à mesure que la quantité de carburant diminuera, il s'élèvera graduellement et devrait finir par atteindre une altitude de près de 2000 mètres. Il aura alors épuisé son carburant et tombera. Nous tenons à préciser qu'il contient une importante quantité d'explosifs. S'il chute faute de carburant, il ne pourra qu'endommager Shinio. Il n'y a qu'une seule façon d'éviter que cela n'arrive, prendre de toute urgence les mesures énoncées ci-après. Une fois que nous serons assurés qu'elles l'ont été, nous le ferons se déplacer vers un endroit sûr. Ces mesures sont: mettre toutes les centrales nucléaires en activité et au repos hors d'état de fonctionner. Concrètement, cela signifie détruire les générateurs de vapeur des réacteurs à eau pressurisée et les pompes de recirculation du circuit primaire des générateurs à eau bouillante. Cesser immédiatement la construction des centrales nucléaires en chantier. Transmettre ces opérations en direct sur toutes les télévisions du pays. Shinio, cependant, doit continuer à fonctionner. Si ce réacteur s'arrête, nous ferons immédiatement s'écraser l'hélicoptère sur lui. L'hélicoptère devrait être livré au client aujourd'hui et son réservoir est plein. D'après nos calculs, il devrait pouvoir voler jusqu'à 2 heures cet après-midi. C'est tout le temps que nous vous accordons. Nous comptons sur vos capacités à décider.
Alors on ne vous racontera pas la fin du roman, mais par contre nous allons passer à une conférence de presse que doit tenir Nakatsuka, le directeur de la centrale. Et je rappelle, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, que le fameux surgénérateur Shinio, c'est l'équivalent de Super Phoenix en France et de bientôt Astrid à Markoul. Donc on voit un réacteur très dangereux. Alors voilà cette conférence de presse.
Cela réveillait un mauvais souvenir en lui. En février dernier, un forum pour discuter de Shinio avait été organisé à Osaka. Les associations qui y avaient participé avaient toutes mis l'accent sur le risque sismique, l'effondrement de nombreux bâtiments prétendument conçus pour résister aux tremblements de terre pendant le séisme de Kobe en 1995 leur avait fourni un argument de poids. Les opposants au nucléaire avaient concentré leurs attaques sur une question. Maintenant qu'il était établi que les experts s'étaient trompés, comment pouvait-on continuer à affirmer que Shinio ne s'écoulerait pas dans le cas d'un séisme de cette ampleur? Anaoka s'y était exprimé au nom du PNC. Il avait expliqué avec son assurance habituelle que les enquêtes géologiques préalables à la construction de Shinio avaient été exhaustives, que les structures étaient capables de résister à des séismes d'une magnitude 3 fois supérieure à celle prévue par la réglementation en vigueur, et que dans le cas où une secousse supérieure à 5 dans l'échelle japonaise d'intensité sismique ressentie était détectée, les barres de commande fonctionneraient automatiquement. S'il s'était limité à cela, il n'y aurait pas eu de problème, mais emporté par son élan, il avait même ajouté que Shinyo était capable de résister à n'importe quel séisme. Il avait été assailli de questions. Qu'entendait-il par « n'importe quel séisme » Affirmait-il que Shinyo était capable de résister à un tremblement de terre semblable à celui qui avait frappé Kobe? Naoka avait riposté « Ce qu'il voulait dire était que le réacteur expérimental pouvait résister au tremblement de terre le plus violent qui puisse se produire là où il était situé sur la base des études géologiques et sismiques disponibles. » Cela n'avait pas suffi à calmer ses contradicteurs. Comment pouvait-il l'affirmer alors que le mécanisme du séisme de Kobe n'était pas encore compris? L'attitude suffisante d'Anaoka et des siens était une des raisons pour lesquelles il n'était absolument pas crédible, avait lancé un membre du public sur un ton insultant. Le reste de discussion avait été de la même teneur. Les opposants répétaient que la sécurité du nucléaire ne pouvait être absolue, puisque l'absolu n'existe pas dans le domaine technique, et ils rejetaient tous les arguments scientifiques qui leur étaient opposés. Nakatsuka reconnaissait volontiers que l'absolu n'existe pas dans le domaine technique. Le seul message que voulait communiquer l'Agence des sciences et des technologies et la Société pour le développement des réacteurs de puissance et des combustibles nucléaires était qu'ils faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour s'en approcher. Nakatsuka se souvenait que la tournure prise par ce forum ne l'avait pas surpris. Officiellement, cet événement avait pour but de discuter afin de parvenir à une meilleure compréhension mutuelle, mais il n'avait pas une seule minute cru que chacune des deux parties écouterait l'autre. De nombreux forums avaient déjà eu lieu pour expliquer la sécurité de Shinyo. Comment pourrait-on parvenir à faire entendre quoi que ce soit à ceux qui refusaient d'y croire? L'invective lancée par un homme de l'autre camp « Shinyo, il faut l'arrêter, bande de connards !» résonnait encore à son oreille.
Et le blues de l'instituteur.
Allez entrer les enfants et arrêtez de vous chamailler. Avancez dans le calme, je sais que vous en êtes capables. Asseyez-vous tranquillement, chacun sa place, ça y est. Écoutez-moi, mais ce matin, n'ouvrez pas vos cartables. On va pas faire de grammaire, de géométrie et de conjugaison. On parlera pas de complément d'objet et encore moins de Pythagore. Ce matin, pas de contrôle et personne n'aura raison. Aujourd'hui, aucune note et personne n'aura tort. Les enfants, écoutez-moi, je crois que je ne vais pas bien. J'ai mal quand je vois le monde et les hommes me font peur. Les enfants, expliquez-moi, moi je ne comprends plus rien. Pourquoi tant d'injustice, de souffrance et de malheur? Hier soir, une fois de trop, j'ai allumé la télévision. Sur les coups de 20h, c'était les informations. Et tout à coup, dans la pièce, s'est produit comme une invasion. De pleurs et de douleurs, c'était pire qu'une agression. Hier soir, l'actualité comptait beaucoup plus de morts que de cheveux sur le crâne de Patrick Poivre d'Arvor. Et c'est comme ça tous les jours, un peu partout sur Terre. Je crois qu'il fait pas bon vivre au troisième millénaire. Comme aux pires heures de l'histoire, des hommes se font la guerre. Des soldats s'entretuent sans même savoir pourquoi. S'ils s'étaient mieux connus, ils pourraient être frères. Mais leur président se sentait les plus forts, c'est comme ça. Et puis à toutes ces religions qui prônent chacune l'amour et qui fabriquent de la haine, des assassins, des terroristes. Pour telle ou telle croyance, des innocents meurent chaque jour. Tout ça au nom de Dieu, on sait même pas s'il existe. Les enfants, désolé, on vous laisse l'humain en sale état. Il faut que vous le sachiez, alors aujourd'hui j'essaie. Les certitudes des grandes personnes provoquent parfois des dégâts. En fait, l'adulte est un grand enfant qui croit qu'il sait. J'ai mal au ventre, les enfants, quand je vois l'argent mis dans les armes, dans les fusées, les sous-marins et dans les porte-avions. Pendant que des peuples entiers manquent d'eau comme nos yeux manquent de larmes et voient leurs fils et leurs filles mourir de malnutrition. Apparemment la nature elle-même a du mal à se nourrir. Les hommes ont pollué l'air et même pourri la pluie. Quand tu auras plus d'eau nulle part, faudra garder le sourire. Et même l'odeur des forêts sera tombée dans l'oubli. Les enfants, vous savez ce que c'est, des ressources naturelles. Si vous savez pas, c'est pas grave, de toute façon y'en a presque plus. Les mots humains et gaspillage sont des synonymes éternels. L'écologie à l'école ne serait pas une matière superflue. Les enfants, désolé, on vous laisse la terre en sale état. Et bientôt sur notre planète.
Vous êtes toujours sur Atomic Mac, l'émission de sortir du nucléaire Drôme Ardèche, et nous sommes toujours dans notre émission de lecture. Alors, on va louper un dernier roman qui s'appelle Terminus Radieux. Vous pourrez trouver ses coordonnées sur notre site. Vous n'y aurez pas droit aujourd'hui. Nous allons là engager notre dernier extrait qui s'appelle Deux cerisiers et un poisson lune. Et Céline, Jeanne
et Vanessa.
S'ils sont mieux à trois pour le lire.
Moi, je vais vous l'introduire rapidement, donc, ce livre, donc, qui s'appelle Hiroshima, deux cerisiers et un poisson lune. Donc, c'est un conte d'Alain Serre qui raconte la rencontre annuelle entre la petite Yoko et sa grande-tante Tsukio. La petite fille voudrait tant entendre de la bouche de sa grand-mère ce qui s'est passé le 6 août 45, jour où une bombe atomique a été larguée sur la ville d'Hiroshima. Son aïeul avait 9 ans à l'époque, mais la vieille dame esquive la chose et lui raconte une histoire magique avec des grues, des cerisiers et des poissons lunes. Pour Yoko, Tsukio ne lui dit pas la vérité et Yoko n'aime surtout pas qu'on lui mente. Bien que l'événement soit narré de manière détournée par la grand-tante qui raconte sa vérité à travers un récit empreint de merveilleux, on en ressent pleinement toute l'horreur. Et c'est justement ce qui peut permettre d'adresser ce livre à des enfants à partir de 8 ans, leur faire savoir ce que c'était sans pour autant employer des termes crus et choquants. En cette année 2015, 70e anniversaire du drame, en transmettre la mémoire peut passer par la lecture de ce conte, dont on va vous lire un extrait.
Maintenant, Yoko, nous pourrions aller voir si...
Si les fleurs du lotus sont éclos, oui, ma tante.
Guide-moi, ma nièce.
Yoko connaît par cœur le chemin du petit bassin au lotus. Elle a envie d'interroger une fois de plus Tsukio sur sa ville et sur sa vie, et de lui dire enfin la vérité, mais les rosées sentent si bon le long du sentier.
Peut-être aurons-nous la chance de voir aujourd'hui un...
Un rossignol, ma tante, peut-être. Mais dis-moi plutôt, ma tante Tsukio, pourquoi ma correspondante a eu si peur quand je lui ai dit le nom de ma ville, Hiroshima?
Yoko sort la lettre de son sac et insiste.
Hiroshima, le 6 août 45, tu t'en souviens enfin, pour de vrai? Dis-le-moi, ma tante.
Oh, c'était la guerre, ma petite Yoko. La guerre d'avant. Les soldats du Japon étaient des guerriers et on manquait tellement de riz. Heureusement que mon père était un vaillant pêcheur. Les sardines sautaient dans la barque. Parfois, il ramenait même des huîtres. Les meilleures huîtres du Japon, nos belles huîtres d'Hiroshima. Mais il préférait les vendre. Un seul morceau de tissu coûtait beaucoup d'huîtres, tu sais.
Mais la bombe, dis-moi, ma tante, que tu te souviens enfin de tout cette année-là.
Oui, Mayoko, je me souviens des avions qui bombardaient les villes du Japon, toutes celles qui entourent Hiroshima, les maisons de bois et de papier brûlaient si bien.
Et après, ma tante?
J'avais 10 ans et je jouais à chercher des grains de riz parmi les graviers du jardin. Et quand j'en trouvais un, je lui disais « Appelle vite tes amis, petit grain de riz », comme dans mon livre de contes, le premier que j'ai su lire toute seule.
Oui, ma tante qui sourit toujours, mais le 6 août 1945...
Tsukio se tait. Elle semble regarder un point très lointain, derrière son cerveau fatigué. Puis, lentement, elle reprend.
C'était le petit déjeuner du 6 août, avec un peu de sardines et de l'eau chaude. Le thon, c'était pour ceux qui avaient des baguettes d'argent.
Et après?
J'ai regardé la lumière du ciel. Les nuages me disaient chaque matin si j'allais bien travailler à l'école. La lumière du ciel, c'est comme cela que tes parents t'ont baptisé, Mayoko, la bien nommée.
Merci, ma tante, qui aujourd'hui se souvient enfin de tout. Et à 8h15,
les nuages ont dit « Bonne note en science ». Les sirènes ont réveillé ceux qui dormaient encore. Des avions sont arrivés et une bombe étrange est tombée. Mais heureusement, notre vieux coq a chanté du haut de son tas de bois. C'était l'année du coq. Il a réveillé les fleurs de nos deux cerisiers qui aussitôt ont commencé à se multiplier, à pousser. Un tapis de fleurs de cerisier a recouvert notre chère ville d'Hiroshima. Et la terrible bombe s'est doucement posée sur les branches, soulevant à peine quelques pétales qu'elle n'a même pas froissés.
Tu mens, Tsukio, tu me mens encore et toujours. C'est sur notre terre qu'elle est tombée, la maudite bombe.
Il ne faut pas t'inquiéter, Mayoko, parce que toutes les grues de notre cher Japon sont arrivées. Entre les avions, sûrement qu'elle veillait. Les grues se sont posées sur les cerisiers, et la plus forte d'entre elles a saisi la bombe dans son bec pour l'emporter au loin.
Mais tes deux frères et ton père, morts ensemble à 8h15, dans la chaleur atomique de la bombe, ma tante. Et la petite marchande de légumes, et ton maître d'école, et ses trois filles mortes si longtemps après leur brûlure. Et la prune sèche sur ta main droite, vieille tante Tsukio.
La tante s'accroche à la rampe du petit pont de bois, sans bouger, sans sourire. Yoko attrape ses deux épaules et lui parle plus fort.
C'est comme si les 60 volcans de nos îles avaient explosé ensemble. Voilà la réalité, tante Tsukio. Je t'en supplie, parle-moi pour de vrai.
Les grumes à Yoko, elles se sont enfuies par-dessus les cerisiers, les cyprès, les pruniers. Et c'est dans une fleur de volubilis qu'elles ont posé la bombe. Elle était maintenant si loin du gros avion noir qu'elle était minuscule, la bombe. Comme un tout petit garçon qui se perd dans une forêt. Portée par la rosée du matin, la fleur de volubilis a glissé jusqu'à la cascade qui l'a emportée encore plus loin.
Mais mon maître d'école, qui chaque année nous raconte l'explosion nucléaire avec ses abominables photos, et le bouquet de lotus et des camélias que chaque année avec mes parents j'apporte au mémorial de la ville, et ma correspondante qui habite là où les grues ne sont jamais allées, et qui pourtant sait, elle.
Yoko lâche brusquement le bras de la vieille dame.
La vérité, c'est que tu mens aux enfants.
Tsukio sourit, comme si aucun mot n'avait le pouvoir de déranger le conte qu'elle s'est fabriqué pour se protéger de la laideur du monde.
Merci à toutes les trois pour ce beau texte. Céline, tu as à peine une minute pour nous dire ce qu'il y a à faire pendant toutes les vacances d'été en matière militante, c'est-à-dire pas grand-chose.
Ouais, ça va être vite fait, mais quand même. Dès ce jeudi, donc 9 juillet, soirée débat au café associatif Le Cause Toujours à Valence sur le thème des transports nucléaires. Colis piégé, point d'interrogation. Rendez-vous à 20h, donc l'adresse du café, c'est 8 rue Gaston-Bray. Voilà. Ensuite, le 8 août, c'est l'anniversaire d'Hiroshima, le 70e anniversaire. Donc vous pouvez aller sur le site du réseau Sortir du Nucléaire, www.sortirdunucléaire.org, pour avoir les manifestations qui concernent cet événement. Ensuite, nous avons nos réunions mensuelles, habituellement le 4e lundi du mois, donc cette fois-ci ça tombe le 27 juillet et le 24 août à 18h30 au local de la Frappna, avenue de Verdun à Valence, donc les réunions mensuelles de Sortir du Nucléaire en Dromardèche, si vous voulez venir lutter avec nous. Et enfin, je vous rappelle, tous les samedis matins, place Porte Neuve à Valence, les réunions, le petit rassemblement de nos copines et copains qui viennent vous parler un peu du nucléaire.
Merci voilà. Céline. Eh bien, on vous souhaite à tous et toutes de bonnes vacances. Je rappelle que vous pouvez nous téléphoner sur notre répondeur au 08 05 69 67 58. C'est un appel gratuit pour nous poser des questions ou vous proposer des émissions. L'équipe aujourd'hui, elle était nombreuse. Anaïs, Jean-Marie, Christophe, Dario, Céline, Jean-Pierre, Jeanne, Dominique et tous les enfants, les petits et les grands qui sont présents dans le local technique. Voilà. Et je rappelle que cette émission est également écoutable sur Déclic Radio à Tournon et sur RDWA à Die. Et puis bien sûr sur Radio Méga aujourd'hui et en rediffusion dans les quelques jours qui vont venir. Et nous vous laissons avec Renaud pour la chanson Le Déserteur.
Président, je vous fais une bafouille que vous lirez sûrement si vous avez des couilles. Je viens de recevoir un coup de fil de mes vieux pour me prévenir que les gendarmes s'étaient pointés chez eux. J'ose pas imaginer ce que leur a dit mon père, lui, les flics, les curés et puis les militaires. Les a vraiment dans le nez, peut-être encore plus que moi, dès qu'il peut en bouffer le vieil anard, il se gêne pas. Le vieil anard, il se gêne pas. Alors il paraît qu'on me cherche, que la France a besoin de moi, c'est con, je suis en Ardèche, il fait beau, tu le crois pas, je suis là avec des potes, des écolos marrants, on a une vieille bicoque, on la retape tranquillement. On fait pousser les chèvres, on fabrique des bijoux, on peut pas dire qu'on se crève, le travail c'est pas pour nous. On a des plantations, pas énormes, 3 hectares, d'une herbe qui rend moins con, non c'est pas du Ricard, non c'est pas du Ricard. Président, je suis un déserteur de ton armée de glands, de ton troupeau de branleurs. Ils auront pas ma peau, toucheront pas mes cheveux, je saluerai pas le drapeau, je marcherai pas comme les bœufs. j'irai pas en Allemagne faire le con pendant 12 mois dans une caserne infâme avec des plus cons que moi. J'aime pas recevoir des ordres, j'aime pas.